Bonjour à tous. Les sujets de préoccupation sont nombreux pour les Français en cette période de rentrée. L'envolée des tarifs de l'énergie venant sans doute en tête, mais il y en a un autre qui me semble aussi de première importance, c'est celui de l'eau, de la ressource en eau. Après un été sec et caniculaire, un de plus, dont nous ne sommes d'ailleurs toujours pas sortis. Pour faire le point, j'ai donc souhaité m'entretenir ce matin avec Guillaume Choisy, directeur général de l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Il est au téléphone avec nous. Bonjour monsieur et merci d'être présent au rendez-vous.
Bonjour.
Si l'on prend le temps de regarder l'état de la Garonne, à Toulouse et ailleurs, lorsqu'on passe sur un pont, et je parle de la Garonne, mais je peux parler aussi de l'ensemble des cours d'eau en général, on constate de visu à quel point leur niveau est bas. Il y a eu une pluviométrie très faible depuis des semaines, pour ne pas dire des mois. Est-ce que la situation est aussi critique, voire désastreuse qu'elle en a l'air?
Alors, critique et désastreuse, je sais pas. En tout état de cause, sur la Garonne, effectivement, on le voit du visu, on est ce qu'on appelle le débit de crise. Vous savez qu'il y a un débit d'objectif qui a été tenu une grande partie de l'été, d'ailleurs, grâce en grande partie à une réalimentation importante par les barrages d'État, hein, qui servent aussi à produire d'hydroélectricité. Donc, à la fois, il faut préserver cette ressource parce qu'il y a besoin de l'hydroélectricité pour cet hiver et les barrages ne se rempliront pas. Ce qu'on prend là, ça, on l'aura pas en début d'hiver. Et on a aussi besoin de préserver la qualité des milieux et la sécurisation des différents usages, notamment actuellement l'eau potable, mais aussi l'eau pour l'industrie sur la Garonne. Et pour cela, effectivement, on essaie de respecter ce qu'on appelle le débit de crise. Donc, on a une réalimentation plus limitée désormais parce qu'il faut préserver ces barrages. Donc, ce qui fait qu'on a aujourd'hui un niveau relativement assez bas. Mais si on n'avait pas ces réalimentations et ce stockage d'eau en montagne, il faut savoir que le niveau serait probablement encore plus bas que ce qu'il est aujourd'hui. Voilà, et c'est probablement une année qu'on aura et qu'on retrouvera dans les années à venir avec l'effet du changement climatique. Donc une année exceptionnelle, mais qui ne deviendra probablement pas si exceptionnelle que ça. Après, malgré tout, on a réussi à sécuriser l'alimentation et les usages pour tout le monde grâce au travail des collectivités locales, grâce au travail aussi de l'État, de régulation et de mise en place de mesures pour limiter et économiser l'eau.
Si on cherche les raisons de cette situation, alors on sait que tendanciellement, la tendance est à une dégradation chaque année du niveau de nos rivières, de la Garonne en particulier. Cette année, en plus, il y a eu une pluviométrie faible l'hiver. Je viens de voir un article récemment qui nous dit qu'il y a un déficit de pluie de 60% en juillet et en août en Occitanie et à Toulouse notamment. Est-ce qu'il y a tout de même un côté exceptionnel cette année, ou est-ce qu'il va vraiment falloir s'habituer à ce genre de situation dans les années à venir et à une dégradation?
Oui, pour les deux, c'est-à-dire que à la fois il va falloir s'habituer à cette température-là et probablement et à cette pluviométrie-là. Et oui, c'est exceptionnel parce que on a eu des pluies abondantes hein, qui ont permis quand même de recharger toutes les nappes et tout le stockage. Toutes les grandes réserves étaient pleines au début de l'été et au printemps parce qu'on a eu un début d'hiver décembre. Décembre dernier, on avait même des inondations sur le bassin d'Adour-Garonne, y compris sur la Garonne. On a eu des niveaux de crue assez importantes l'aval de la Garonne. Cependant, à partir de janvier, on n'a plus vu de pluie efficace, plus de pluie qui remplissait les sols, plus de pluie qui permettait effectivement d'avoir un effet recharge sur la nature. Et on a eu depuis fin janvier une longue, longue période jusqu'à aujourd'hui de sécheresse et de pluie très, très rare avec des niveaux de pluviométrie extrêmement restreints par rapport à ce que l'on connaît d'habitude. Je pense que depuis 2022, on est sur une année largement record en termes de baisse de pluviométrie. Ce qui ne veut pas dire que sur la fin de l'année, on n'aura pas non plus des pluviométries abondantes. Voilà, mais on est quand même parti avec, malgré cela, on avait eu un début d'hiver très pluvieux, donc on est parti avec une recharge des sols relativement assez importante, enfin une recharge des nappes relativement assez importante, mais les sols se sont très très vite déchargés en eau parce qu'on a eu une période trop longue de pénurie d'eau, donc on a eu des sols très secs et on le voit, hein, la végétation souffre, on le voit sur les arbres, ça se voit aussi bien que le niveau d'eau de la Garonne, que la végétation sur le bassin souffre énormément de cette pénurie d'eau.
Les conséquences au moment où nous nous parlons de cette sécheresse et du niveau très bas de nos cours d'eau, quelles sont-elles? Là, je parle autant des conséquences pour l'homme et pour les activités humaines que pour la faune aquatique et la faune en général.
Bon, c'est probablement la faune aquatique. Il est trop tôt pour faire un bilan, mais il est évident que sur la faune aquatique, on fera un bilan avec l'Office français de la biodiversité, avec les services de l'État et avec les collectivités locales en charge de la gestion des milieux aquatiques. Mais c'est probablement là où on a eu les plus grandes difficultés. On a déjà des grandes alertes des pêcheurs qu'on fait un travail considérable sur les ASEC. On a sur le bassin Adour-Garonne 128 000 km de rivière, on a à peu près 38% qui sont à sec aujourd'hui, et c'est probablement sur ce territoire-là où on aura le plus de déficits en termes de biodiversité aquatique, hein, faune et flore. Et je souligne là le travail qui a été fait par les militants, par les bénévoles dans les associations de pêche, les associations environnementales pour essayer effectivement de sauver notamment les poissons. Dans ces rivières-là qui avaient parfois jamais connu d'ASEC par le passé. Voilà. Et puis après, sur la sécurisation des volumes, ça a des incidences assez fortes sur les cultures parce qu'il y a eu des territoires dans le bassin de Garonne qui ont connu très peu de possibilités de prélèvement en eau dans les rivières cet été. Ça a des incidences aussi assez importantes parce qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de sécuriser l'eau potable. On prévoit, on sait gérer probablement jusqu'à fin octobre, une situation sans pluie sans pluie qui permette de recharger les rivières. Mais on a 60% de la population du bassin qui est alimentée par les rivières. Sur la Garonne, je ne pense pas qu'il y ait une menace, mais peut-être parfois sur des communes plus rurales ou alimentées par des bassins plus restreints, la situation peut effectivement être plus tendue ou plus ténue. Voilà. Mais ce que je mesure, c'est qu'aujourd'hui, sur l'eau potable, le travail des collectivités d'interconnexion qui a été soutenue par l'Agence de l'eau Adour-Garonne nous a permis d'avoir moins de difficultés sur d'autres bassins que d'autres bassins et nous a surtout permis d'avoir une anticipation et moins de coupures que ce qu'on a connu en 2019 et encore moins qu'en 2003 parce que le travail d'interconnexion, le travail de sécurisation, tant sur la qualité que sur la quantité, avec le travail aussi de bactériologie, on a très peu de dégradation quantitative cet été alors que la température est extrêmement haute dans les rivières. Ça montre le travail qui a été fait pour sécuriser la qualité et la quantité d'eau potable pour nos concitoyens. Alors que sur les côtes et parfois sur les zones de montagne, sur les zones touristiques, on a battu des records en termes de consommation d'eau.
Donc, nous savons, comme vous l'avez dit au début de votre intervention, que ces épisodes de sécheresse combinés au réchauffement climatique, a priori, vont se répéter dans les années à venir. Quelles sont les perspectives? À quoi devons-nous nous attendre et surtout, à quoi devons-nous nous préparer?
Bah, je pense qu'il faut se préparer à avoir la meilleure efficience d'eau possible, parfois faire des économies. Il y en a eu déjà beaucoup de faites, hein, parce que sur les 15 dernières années, en termes d'alimentation en eau potable, les citoyens, on a augmenté de 1,5 million la population sur le bassin d'Adour-Garonne et on a diminué de 100 millions de mètres cubes, 10% la consommation d'eau potable. Il faut continuer sur cette efficience. Je pense qu'une même goutte d'eau, il faut qu'elle puisse avoir aussi des d'autres utilisations. C'est notamment ce qu'on appelle la réutilisation des eaux usées, donner un deuxième usage. Voilà, peut-être limiter aussi en période estivale de l'eau destinée à nettoyer les rues, des choses comme ça, d'éviter les eaux traitées. Il faut aussi permettre une meilleure performance et l'industrie a déjà fait beaucoup hein, pour augmenter. On a encore des projets importants d'économie d'eau dans l'industrie pour pouvoir avoir des process qui utilisent moins d'eau. Et puis je pense que il faudra dans le milieu agricole aussi. Et on va prochainement signer un pacte avec les régions qui sont engagées sur la transition et l'économie, les régions occitanes et les régions Nouvelle-Aquitaine, les COP de France et les coopératives régionales, les chambres d'agriculture pour avoir une transition de l'agriculture sur notre territoire. Ça veut dire essayer que le modèle agricole puisse mieux stocker l'eau dans les sols par des couverts végétaux l'hiver, par des systèmes de matière organique plus importante dans les sols pour avoir des sols qui soient plus résilients à l'eau, avoir aussi des filières qui résistent mieux à la sécheresse. Voilà, on peut sanctuariser un petit peu d'irrigation pour l'agriculture. C'est ce que l'on fait actuellement pour des productions à haute valeur ajoutée, mais on ne pourra pas, on a 15% simplement de la surface agricole utile irriguée. Et on n'arrivera jamais à 100% du territoire. Ça me semble illusoire dans le contexte dans lequel on est. Donc il faut optimiser, il faut adapter l'agriculture. Et c'est un travail qui est enclenché. Je suis assez touché, y compris avant cet épisode, depuis quelques années, depuis 2 ans, du travail qui a été fait par le monde agricole pour pouvoir s'adapter. Je pense qu'ils en ont bien plus conscience que ce qu'on peut parfois dire ou penser. Simplement, il va falloir du temps. Je pense que pour adapter des filières économiques dans leur ensemble, il faut probablement 10 années pour s'adapter à ça. Et malheureusement, des épisodes comme cette année, ils souffrent. Ils souffrent économiquement, ils souffrent aussi dans leur organisation. Donc, il va falloir qu'on puisse les aider. Et j'espère qu'on aura à l'avenir une politique agricole commune aussi qui européenne qui aidera les agriculteurs à cette transition.
Oui, parce que vous mettez en œuvre les politiques de l'eau nationales, mais aussi européennes, des directives européennes dans les agences de l'eau.
Ah, bien sûr, nous, on est régi par la directive cadre européenne sur l'eau, hein. C'est une directive cadre qui est commune à l'ensemble des pays. Et tout à l'heure, vous disiez que la qualité se dégrade. Alors, on a des difficultés de quantité, mais je souligne quand même que malgré cela, on a une qualité d'eau qui s'améliore en France. On a l'objectif d'arriver en 2017 pour le bassin de Haute-Garonne à 70% du linéaire des 128 000 km de cours d'eau en bon état et des étangs. On a aujourd'hui 50% de bon état des eaux sur le territoire. On était il y a 5 ans à 43, donc on progresse relativement assez bien et on est largement dans la moyenne plutôt supérieure au niveau européen, y compris en comparaison des pays comme l'Italie, l'Allemagne, on est largement, on peut être largement satisfait et en plus avec un prix de l'eau aujourd'hui qui est l'un des moins chers dans le monde et l'un des moins chers en Europe.
Alors, quand on dit qu'il faut remettre en cause, en question plutôt, notre modèle agricole, ça veut dire sans doute changer de culture, peut-être arrêter, ou en tout cas en faire dans une moindre mesure des cultures comme le maïs qui sont très consommatrices en eau. Mais il y a aussi l'aspect artificialisation des sols, je pense, qui compte, donc l'urbanisation. Est-ce que là aussi, vous nous dites que les agriculteurs sont à l'écoute, est-ce que les collectivités, les promoteurs immobiliers aussi sont bien conscients de ça? Est-ce qu'on remet en question les modèles développés jusqu'alors? Est-ce qu'on va replanter des haies, par exemple? Est-ce qu'on va replanter des arbres? Est-ce qu'on va veiller à ne plus assécher les zones humides qui ont un rôle d'éponge? Est-ce que tout ça est bien pris en compte?
Oui, alors probablement pas encore assez vite, mais oui, ça fait partie des choses qui sont largement prises en compte sur la désartificialisation des sols, replanter des haies, renaturer des zones humides. On a fait 5 000 hectares en 3 ans de recréation de zones humides sur le bassin de Haute-Garonne avec le soutien des régions et des nombreux départements. Donc on va vite à la réhabilitation. C'est vrai qu'on a perdu en France plus de 60% des zones humides sur le territoire. Donc c'est bien souvent dans des enjeux stratégiques et qu'elles ont un rôle essentiel de stockage, de purification de l'eau. Donc autant un stockage quand il y a des fortes inondations qu'un stockage pour pouvoir redonner de l'eau dans les périodes d'étiage. Donc elles sont essentielles. C'est pas le seul outil, mais elles sont essentielles. La renaturation des villes également avance. J'étais hier soir aux 50 ans de l'agence d'urbanisme de Toulouse. Il y avait le préfet, il y avait le maire de Toulouse, le président du conseil départemental. On voit bien que les collectivités sont conscientes de la nécessité d'aménager différemment les villes, de recréer des îlots de fraîcheur, de recréer une désimperméabilisation des sols. Voilà, c'est des choses que l'on accompagne au niveau de l'agence de l'eau avec l'État pour pouvoir accélérer ces enjeux-là. Et c'est nécessaire pour préserver la qualité, mais aussi préserver effectivement la capacité de résilience tant des territoires urbains que des territoires ruraux.
Eh bien, merci beaucoup, Guillaume Choisy, pour toutes ces informations. C'était très précis. La situation est inquiétante, mais on a pu voir grâce à vous que des réflexions sont en cours, que des solutions existent. Encore faut-il que
Absolument.
tout le monde pousse dans le même sens pour les mettre en œuvre. Le temps
Il faut
presse, on le
accélérer.
sait. Hein,
Voilà.
le temps presse, il faut maintenant agir. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui sont autour de la table pour aller dans le bon sens, comme je le disais. J'invite nos auditeurs, s'ils le souhaitent, à se connecter au site web de l'Agence de l'eau pour en savoir plus sur ses missions et sur les actions qu'elle mène. www.eau-grandsudouest.fr.